Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir contempler ta grandeur, ta puissance, ta gloire. Et nous te remercions aussi pour le privilège que nous avons de pouvoir entrer dans ta parole ou laisser ta parole venir à notre rencontre. C'est un temps de communion que tu désires avec nous. C'est pas un monologue que tu veux avoir avec nous. C'est un dialogue. Et je te remercie parce que ta parole est puissante. Tu dis un seul mot peut suffire pour faire basculer nos vies dans le plan que tu as pour nous, le désir que tu as pour nous, le dessein que tu as pour nous. Alors je te demande ce matin que nous puissions être comme des enfants à l'écoute de ta parole, que nous puissions la recevoir dans la simplicité et ainsi te laisser agir dans chacune de nos vies. Tu nous connais, tu sais où nous en sommes, chacun individuellement, et tu désires nous rencontrer. Merci pour ce temps béni, pour ce temps précieux que tu nous donnes. Amen. Bonjour. Voilà pour tous ceux qui ne sont pas en vacances. Je vais vous inviter ce matin à faire un long voyage de plusieurs milliers de kilomètres, mais aussi de plusieurs milliers d'années. On va s'arrêter ce matin sur la vie d'Abraham et on va essayer de voir avec lui ce que nous pouvons en tirer. Tiré de ses expériences, de sa vie, de sa rencontre avec Dieu. Alors j'aimerais lire en introduction dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 11. Hébreux 6, 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et le deuxième passage se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tout au long de ces épîtres, l'apôtre Paul n'a cessé d'encourager, d'exhorter, de fortifier la foi de ceux qui étaient devenus croyants en Jésus-Christ. Et nous savons qu'il y a divers moyens pour grandir et se fortifier dans la foi. Est-ce que vous avez des exemples? Comment est-ce que vous vous édifiez dans la foi? Comment est-ce que vous grandissez dans la foi? Quels sont les moyens qui vous permettent d'y parvenir? La lecture de la Bible, la prière, la louange, témoignage,
notre vécu,
la communion fraternelle. Voilà, plein d'exemples qu'on pourrait donner qui font partie de notre vie, de notre existence en tant qu'être humain, en tant que chrétien. Mais là, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul nous dit, si tu veux grandir dans la foi, tu peux aussi apprendre à imiter ceux qui t'ont précédé. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, dira-t-il. Alors, qu'est-ce que signifie le mot imiter? C'est reproduire l'allure ou le comportement de quelqu'un. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, mais moi j'étais jeune, hein, voilà. À l'époque, on essayait tous de ressembler aux Beatles. On se laissait couper les cheveux, on se laissait pousser les cheveux, et puis après on se faisait une coupe à la Beatles. Puis après on s'achetait un veston à la Beatles. Enfin, je sais pas aujourd'hui à qui vous voulez ressembler. Bon, ça va, hein. Elles imaginent là ce que j'étais à l'époque. Bref. Donc reproduire l'allure ou le comportement de quelqu'un, reproduire exactement ou copier, hein, une photocopie. Hein. Ou prendre pour modèle. Voilà ce que signifie le mot imiter. Ces derniers temps, nous avons pris du temps justement pour essayer de remonter dans nos origines et essayer de découvrir notre identité en tant que chrétien évangélique. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que d'être chrétien évangélique. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens catholiques, des chrétiens réformés, des chrétiens évangéliques? Moi, j'ai envie de connaître mes racines. J'ai envie de connaître mon identité en tant que chrétien. Et on a vu qu'on pouvait remonter jusqu'à l'époque de l'Église primitive. Étienne était pour moi un exemple, le premier martyr de l'Église. Hein. Étienne, ensuite on est remonté à travers les siècles, on a vu des gens comme Jean Hus ou comme Pierre Valdo ou Martin Luther ou d'autres. Et pour moi, ce sont des gens aussi à imiter parce qu'il y a quelque chose dans leur vie que je peux aller découvrir d'abord, et puis je peux reproduire. Alors, pas de la même manière qu'eux, mais dans le principe. Et je crois que nous avons tous à y gagner, de connaître, pas seulement, c'est déjà énorme, la parole de Dieu, mais notre histoire. Et ça nous permet ainsi de reproduire, génération après génération, les côtés positifs, est-ce que ces hommes ou ces femmes de Dieu ont su manifester ou vivre. Bien évidemment que notre exemple par excellence, c'est Jésus, n'est-ce pas? Paul le dit, devenez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc j'essaye de voir dans ta vie, qu'est-ce que je peux imiter qui est de Christ, hein? Et je crois que parfois on peut découvrir des choses intéressantes. Mais je crois que c'est important aussi de pouvoir se situer par rapport à des hommes et des femmes de la même nature que nous. Parce que bon, Jésus, c'est vrai, il a pris un corps comme le nôtre, il est entré dans ce monde de péché. Mais quand ce sont des gens de la même nature que moi, je me dis, bon, s'ils ont réussi, ben, il n'y a pas de raison que je réussisse pas. S'ils ont atteint l'objectif que Dieu avait pour leur vie, il n'y a pas de raison que je n'atteigne pas cet objectif. Alors, on va considérer ce matin trois étapes de la vie d'Abraham. Moi, je suis toujours émerveillé de penser que une histoire dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, peut parler à des gens tellement divers. Déjà, parmi nous, on est très divers les uns des autres, avec notre arrière-plan culturel, avec notre quotient intellectuel, nos capacités, nos dons. Mais je suis toujours émerveillé de me dire, mais c'est quand même incroyable. En ce moment, vous avez un Esquimau sur sa banquise qui lit peut-être ce passage. Un Peul de l'Afrique de l'Ouest lit le même passage. Un Chinois au fin fond du nord de la Chine lit ce même passage. Et ces gens-là vont être inspirés. Et ils vont essayer d'imiter. Et ça, c'est la richesse de la parole de Dieu. Parce qu'elle parle beaucoup plus au cœur de l'homme qu'à l'intelligence de l'homme. Quand nos cœurs sont touchés, là, il se passe quelque chose. Et quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la vie d'Abraham? En quoi est-ce que je peux reproduire des comportements ou prendre pour modèle? Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Dans les deux premières parties du message, j'aimerais m'arrêter un petit moment pour que nous ayons un temps de réflexion. Souvent, voilà, des fois, le message un peu long, 40, 45 minutes, des fois plus. Puis on a l'impression que c'est unilatéral, vous écoutez, vous êtes brave. Mais on va s'arrêter après la première étape pour un temps de réflexion sur ce qui a été dit. Pour qu'on puisse prendre le temps pour se situer par rapport à ce que vous avez peut-être reçu. J'espère que vous recevrez quelque chose ce matin. Et puis on continuera le message. On laissera juste un instant de calme, de paix. Si certains veulent s'exprimer, ayez cette liberté. Et puis on continuera donc le message. Alors j'aimerais quand même lire en introduction, bien sûr, le début du chapitre 11 du livre de la Genèse, 12, on est déjà au 12 là, oui, à partir du verset 4. Non, on va prendre depuis le verset 1. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Quand on lit ce récit de la vie d'Abraham, la première chose, bien sûr, qui surprend, c'est l'appel qui est sur sa vie. Cet appel qui le surprend, qui vient à sa rencontre alors qu'il ne s'y attend pas du tout. Alors essayons de replacer cet appel dans son contexte. Le texte que nous venons de lire dans Genèse 12 nous dit que Abraham a vécu une vie, je dirais, conventionnelle. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire dans ce qui est écrit de la vie d'Abraham. Il naît à Ur en Chaldée, il va avoir deux frères qui lui succèdent, et on passe à l'étape du mariage assez rapidement. Bon, ils vont connaître des problèmes de stérilité du côté de Sarai, Puis, c'est la période du déménagement. Voilà, ils déménagent de Ur en Chaldée et ils vont à Charan. Et puis, entre deux, apparemment, un de ses frères va décéder. Et puis, c'est ensuite à Charan, le père même d'Abraham qui décède. Donc, jusque-là, il y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est une vie comme toutes les autres, une vie ordinaire. Par contre, ce que le récit nous révèle sort de l'ordinaire. C'est l'appel de Dieu sur sa vie. Et cet appel se situe encore lorsqu'Abraham se trouve à Ur, en Chaldée. C'est Étienne qui le rappelle dans Actes 7, verset 2, lorsqu'il témoigne devant le Sanhédrin à Jérusalem, il dira « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il ne s'établisse à Charan. » Donc il y a un appel de Dieu sur la vie d'Abraham. Alors moi j'aimerais que vous puissiez vous resituer, vous fermez peut-être les yeux, vous resituer dans cette immense ville d'Ur, il y avait plusieurs dizaines de milliers d'habitants, c'était une ville riche, prospère, il y avait beaucoup de religiosité, beaucoup d'idolâtrie, et vous avez un homme là, assis sur une chaise à la rue du Nord 116 à Ur. Il est là, il sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est là. Et tout d'un coup, quelque chose qui sort de son ordinaire l'atteint. Il entend une voix venue d'ailleurs. Quelque chose qu'il n'a jamais perçu jusque-là. Quelque chose de tellement différent de ce qu'il a vécu jusque-là. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu sur sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au-delà et au-dessus de l'histoire banale d'Abraham, il y a celle que Dieu veut inscrire dans l'histoire des hommes, dans la vie d'Abraham et dans nos vies. Une histoire sainte. Une histoire qui est différente de celle des hommes. Elle est déjà pas très belle, hein, celle des hommes. Quand on entend tout ce qu'on entend aujourd'hui, on a envie d'avoir une histoire, une autre histoire à vivre. Et Dieu propose à l'être humain, à Abraham, une autre histoire qui va le faire sortir de son ordinaire. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui tournent en rond sur eux-mêmes. La seule chose qu'ils connaissent d'eux, c'est leur bourrillon. Leur bourrillon. Oh ben, je l'expliquerai là. Nombril. Ils font du nombrilisme. Mais Dieu a une histoire extraordinaire. Nous le savons, bon, Abraham l'ignorait peut-être à ce moment-là, certainement. Mais Dieu a enclenché un plan de salut pour l'humanité. Et il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à lui faire confiance, à entrer dans son dessein, à collaborer à l'accomplissement de ce dessein. Dans Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, il est dit « Je cherche parmi eux un homme !» Un homme ! Et son regard s'est posé sur cet homme. Le Dieu de gloire apparut. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Et ensuite, Dieu commence à parler à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, 1. Donc, il le cherche, il lui apparaît et il lui dit. Si ça, ce n'est pas une communion que Dieu cherche avec nous, je ne sais pas comment comprendre la chose. Dieu désire entrer dans une relation personnelle, individuelle. Il a des choses à dire à Abraham et à lui seul. Ça ne regarde personne d'autre, en tout cas au début. Dieu cherche, Dieu apparaît, Dieu dit. Donc le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce texte, de ce récit, c'est qu'il y a au début de cette incroyable aventure, parce que nous la connaissons maintenant, l'aventure d'Abraham, il y a un appel. Et nous découvrons que plus de 4000 ans plus tard, c'est-à-dire dans notre génération, le même Dieu est toujours à la recherche d'un homme ou d'une femme. Il continue de chercher, il continue d'apparaître et il continue de dire des choses. Il a des choses à nous dire à chacun individuellement, à chacun personnellement. Rappelez-vous 1 Corinthiens 15, 5. Paul relate la façon dont Jésus s'est révélé à Pierre, Cephas, hein, aux 12, à plus de 500, à Jacques, puis à tous les apôtres. Et il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Donc Paul parle d'une expérience personnelle. Dieu m'est apparu. Là non plus, on ne sait pas comment il lui est apparu. Mais il peut dire que quelque chose de très particulier s'est produit à un moment donné dans sa vie ordinaire qui a commencé de devenir extraordinaire à partir de ce moment-là. Et à la suite d'Abraham, nous pouvons à notre tour dire « Mais oui, Dieu m'est apparu. Je ne sais pas comment il l'a fait pour vous, mais moi je sais qu'il l'a fait pour moi. » Et quand Dieu m'est apparu, il ne s'est pas seulement contenté de me dire « Alain, je t'apparais pour te sauver. Voilà, je te sauve. » Il l'a dit, oui. C'est peut-être la première étape dans laquelle il m'a fait, il t'a fait entrer. Mais Dieu a un regard beaucoup plus lointain que le seul fait de te sauver. Dieu a un dessein pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et je crois que c'est le plus grand des mensonges de l'ennemi, une fois qu'il n'a pas pu nous retenir à la conversion, parce que il essaiera toujours de nous retenir, de vivre le temps de la conversion. S'il n'y arrive pas, il essaiera de te faire croire cet immense mensonge que Dieu est emprunté maintenant pour savoir ce qu'il va faire avec toi. Ah, et Dieu sait ce qu'il va faire avec les prophètes, avec les pasteurs, avec les missionnaires, avec les évangélistes. Là, c'est très clair. Mais avec ma petite vie à moi. Et là, j'ai l'impression que ce mensonge est épatant, souvent. Et il n'est pas épatant, hein, il est patent, il est présent. Parce que je me dis, je suis sauvé, c'est déjà pas mal. Et l'ennemi dit, surtout bouge plus maintenant. Concentre-toi sur ton salut, mais fais-en pas plus. Ça suffit, t'es sauvé, t'es heureux, t'es chrétien, t'es dans une bonne église, tu chantes des louanges. Reste là tranquille, d'accord? Parce que il faut tenir ferme jusqu'au bout. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands mensonges que l'ennemi arrive à faire entrer dans la vie des chrétiens en leur faisant croire que Dieu est emprunté une fois qu'il les a sauvés. Quand Dieu est allé chercher Abraham, il n'était pas emprunté. Il savait exactement ce qu'il voulait faire avec cet homme. Il savait exactement ce qu'il allait faire avec Alain Pilecki. Il sait exactement ce qu'il aimerait faire avec toi. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une réalité pour nous? Donc cet appel retentit une fois dans sa vie, une fois. Et Abraham a écouté. Il a tendu l'oreille. Il a ouvert ses pensées. Il a ouvert son cœur. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a su être attentif. Paul le rappelle pour les chrétiens de Rome. Il leur dit au chapitre 1, verset 6, « Vous qui avez été appelés », il ne dit pas « à ceux qui éventuellement ont été appelés par Dieu dans l'Église », « à vous qui avez été appelés hein, par Jésus-Christ ». Au chapitre 8, verset 28, « appelés selon son dessein ». Il n'y a pas seulement un appel. Dans cet appel, il y a un dessein que Dieu veut faire descendre dans nos vies. Pierre dira aussi, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 9, « Vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Elle prend forme. Cet appel prend forme. C'est pas seulement un beau sac, hein, quand on sort de certains magasins, on a un magnifique sac parce qu'on vient d'acheter quelque chose. Alors on se trimballe dans toute la ville avec son sac. Les gens nous regardent, oh là, elle est dans cette boutique, hein, magnifique. Hein. Il y a un contenant, il y a quelque chose qui a de la valeur. Dans l'appel de Dieu, il y a un contenant. Et ce contenant, c'est le dessein de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. Et au chapitre 5, verset 10, il dira... Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc vous voyez, c'est de l'ordre de l'éternité, c'est plus de l'ordre seulement du présent. Notre horizon, il n'est pas dans les 6 mois qui viennent ou dans les 10 ans qui viennent, il est dans l'éternité qui vient devant moi. Ça m'ouvre à la réalité de l'éternité. Donc on voit que c'est pas un Dieu seulement du moment, comme les dieux de ce monde. Hein. Ils vous entraînent dans certaines choses et puis au bout de 6 mois, ils disparaissent et vous êtes là, tout penaud, à chercher un autre Dieu, à chercher quelque chose qui va remplir votre vie. Hein? C'est un Dieu d'éternité qui est apparu. Alors j'aimerais m'arrêter un moment avec vous prendre un temps de réflexion, de prière, et voir si, à l'image d'Abraham, j'ai été attentif à cet appel. Et qu'est-ce que cet appel signifie pour moi aujourd'hui? Pas hier, pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui. Quel est le sens de cet appel? Quel est le contenu de cet appel pour moi personnellement? Vous oubliez tous les autres, vous êtes tout seul avec le pasteur dimanche matin. Voilà. Non, devant le Seigneur. Et puis voilà, je vais laisser le Saint-Esprit peut-être maintenant agir avec vous et vous rappeler peut-être certaines choses, vous parler d'une certaine manière. Si vous avez envie de prier, faites-le dans ces instants qui suivent. Seigneur, ce matin, j'aimerais te remercier pour l'appel qui a retenti dans ma vie. Tu m'as vu au milieu des 50 000 habitants de la ville de Bienne un jour, dans ma vie ordinaire. Tu t'es approché de moi et tu m'es apparu et tu m'as parlé. Et tu as changé ma vie. Tu as changé la direction de ma vie. Tu m'as donné le sens même de la vie. Et je veux te bénir pour cela ce matin. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je crois qu'on pourrait continuer pendant une heure. Hein. Quand on prend conscience de l'appel qui est là sur nos vies, quand on se resitue dans ce moment où peut-être sous la douche, on a entendu une voix, ou bien, je ne sais pas, dans notre lit, ou à ta... je ne sais pas. Mais c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire, non? Amen. Amen. Alors on continue. Hein. Donc si Dieu cherche Abraham, s'il lui apparaît, il lui dit des choses. Dieu sait ce qu'il a à nous dire, personnellement, individuellement. Et là, il lui dit 3 choses. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, ou sors ou quitte. Ça, c'est une expérience assez particulière, n'est-ce pas? Pour entrer dans le dessein de Dieu, pour entrer dans la vision de Dieu, Abraham doit sortir. Il doit sortir, il doit quitter, il doit s'en aller. Je l'ai rappelé dans le message précédent que la vie chrétienne, c'est une vie en nouveauté de vie. C'est quelque chose de nouveau. La Bible, tout le Nouveau Testament est rempli de choses qui nous attirent, qui nous entraînent vers des choses nouvelles. Et c'est dans ces moments-là que nous découvrons en fait la difficulté que nous avons à vivre le changement, à vivre la nouveauté. Tout ce que cela produit en nous comme réaction. C'est vrai qu'au départ, quand l'appel vient sur nos vies, quand Dieu commence de nous parler, ben c'est vrai que nous sommes heureux de vivre la présence de Dieu, heureux de l'entendre nous dire qu'il nous aime d'un amour éternel, qu'il est prêt à pardonner nos péchés, il met une joie nouvelle dans notre cœur. On est effectivement heureux dans ces moments-là. Mais Dieu veut aller tellement plus loin que cela. Dieu va aller tellement plus loin, il ira aussi loin qu'il le trouve nécessaire. Comprenez? Qu'il le trouve lui nécessaire. Parce que dans sa pensée à lui, quand il nous voit, il dit, avec toi, je sais ce que je vais faire. Je vais t'amener jusque là. Enfin, j'aimerais. Et comme on n'est pas des robots, il va pas presser sur des boutons, puis on va avancer là comme des automates jusqu'à la prochaine étape. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. Et il veut nous entraîner dans quelque chose de nouveau. Et c'est difficile parce que notre nature humaine, elle est profondément ancrée et elle a de la peine à s'extirper de la culture dans laquelle nous sommes, de nos habitudes, de nos traditions religieuses notamment, de notre cadre de vie qui est souvent une zone de confort parce que c'est naturel qu'on cherche le confort. Hein. Qui c'est qui cherche pas le confort? Qui d'entre vous habite sous un pont ici à la Chaux-de-Fonds? Bah, ce serait possible, hein, un bon sac de couchage, une embase, on peut dormir sous un pont. Hein. Ben non, hein, on cherche quand même un appartement qui soit agréable, qui soit confortable. Donc on voit combien il est difficile de quitter, de sortir, de laisser, de s'en aller. Abraham était imprégné de la manière de vivre dure en Chaldée. Hein. Il est façonné par l'idolâtrie ambiante. Alors imaginez... Quand ces paroles, c'est pas un message de 45 minutes du pasteur, c'est 3 mots. Hein, c'est sors, hein, va-t'en, hein, ou quitte. Et c'est pas rien, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, donc tout ce qui fait ton identité. Alors moi, je pense que qu'Abraham a dû repasser dans son cœur ces paroles. Il a dû se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, dans Josué 24:2, il est dit « Vos pères, Terach, père d'Abraham, etc., habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Ce n'est pas seulement une religion de surface, ils servaient d'autres dieux. Donc imaginez au moment où cet appel retentit et cet appel à quitter, à sortir, je pense qu'Abraham a bien dû tergiverser. Ce n'était pas évident, mais il savait que quelque chose de particulier s'était passé. Là, il n'y avait pas de doute. Il n'avait pas rêvé, c'était pas un rêve. Mais ça va lui prendre du temps. Et parfois, je suis étonné de la manière dont on conçoit la vie chrétienne, en particulier dans nos églises de type évangélique charismatique. On a l'impression que quand quelqu'un est sur le tapis roulant, hop, il va passer toutes les étapes sans problème, il va sauter les unes après les autres, sans difficulté, qu'il va être sanctifié en l'espace de 6 mois, que tout ira bien, que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On a des fois un peu cette impression. Peut-être qu'il faut corriger le tir un peu et nous resituer dans notre humanité. L'appel de Dieu est extraordinaire, mais nous sommes des êtres ordinaires. Et nous avons de la peine à entrer dans l'extraordinaire. Et ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'humilité. Ça nous demande beaucoup d'écoute de Dieu, de se dire « Mais qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui ?» Alors il va se mettre en route, comme tout nouveau chrétien, ben voilà, il y avait hier et puis il y a aujourd'hui. C'est un jour nouveau. Waouh, Dieu m'est apparu. Ah, j'ai la joie de Dieu. Ah, j'ai plus ce fardeau sur les épaules du péché qui était là sur moi, etc. On a beaucoup ce genre de témoignages. Alors on est déjà debout et puis on se lève et puis on commence à se mettre en route. Mais voilà. Et c'est là que Abraham va faire une deuxième expérience. C'est l'étape de Charan. Il va connaître l'étape de Charan. C'est une étape douloureuse, mais qui s'avérera décisive. Nous, on n'a pas envie de passer par des moments douloureux. Ou bien est-ce que vous aimez les moments difficiles, douloureux, compliqués, etc. Non ? Pas trop, hein ? Si on peut s'en passer, si la piste elle est rectiligne, tout droite, sans une bosse, sans une nez, sans un obstacle, c'est mieux, hein. Dieu voit pas la chose de la même manière, hein. En même temps, il nous amène à le suivre, mais il nous ramène aussi à nous-mêmes. Je peux avoir l'envie de suivre, mais je peux avoir beaucoup de difficultés à suivre. Parce que c'est au moment où je fais le choix de marcher avec Dieu que je commence de découvrir qu'en moi, dans ma vie, dans mon histoire, dans ma famille, il y a beaucoup de choses qui me retiennent. Il y a beaucoup de choses qui vont faire obstacle. C'est pas si évident que ça. Alors, Abraham s'en va. C'est magnifique. Il se lève, il part. Et il quitte Ur. Il se met en marche. Mais il emporte dans ses bagages bien des choses qu'il va devoir abandonner. Et ça, il va peut-être s'en rendre compte entre Ur et Charan. Entre deux étapes, il peut se passer énormément de choses. Et moi, ça ne me fait pas souci quand je vois un chrétien né de nouveau, qui est plein d'enthousiasme et tout. Je me dis, ok, dans quelques semaines, ça va un peu se tasser. Hein? Et puis là commencera l'épreuve de vérité, je dirais. Hein? Il va passer d'Ur à Charan. On a tous un Charan quelque part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, on voit qu'on n'entre pas dans l'histoire sainte sans laisser derrière soi des choses ou des personnes qui nous semblaient indispensables. Je me souviens, lorsque Dieu m'est apparu à Bienne, qu'il m'a appelé, qu'il m'a dit des choses, ça concernait bien sûr ma conversion, ce changement de vie qui s'est opéré, j'ai appris à connaître l'église de réveil, et puis après le groupe de jeunes, puis après on a créé un autre groupe de jeunes, enfin voilà, ma vie entrait vraiment dans une nouvelle étape. Et puis ensuite, il y a eu cette étape de la librairie, Coffee Bar qu'on a ouvert, où on faisait beaucoup d'évangélisation, on sortait dans la rue, on accueillait les gens, on discutait, etc. Et un jour, alors que je ne m'y attendais pas, bien qu'il y avait j'avais des sentiments mitigés à un moment donné. J'avais plus la même ferveur, j'avais plus la même joie. Je partais le matin, je me disais, c'est bien cette librairie, ce coffee bar, tout ça. Mais il y a quelque chose en moi qui était en train de s'étioler. Et est venue l'appel, dans cette même période, l'appel pour Fribourg. Et ça, franchement, je ne m'y attendais pas, ma femme non plus. On s'attendait pas à un appel comme celui-là, d'aller à Fribourg pour ouvrir une église de réveil. J'étais même pas pasteur, j'avais pas fait d'études de théologie dans une école biblique. Enfin, je comprenais pas et je me suis dit, bon, ben voilà, ils ont trouvé un jeune plein de feu, plein de zèle, et puis hop, on l'envoie à Fribourg, et puis on verra bien, quoi. Voilà, c'était un appel de Dieu. Et au moment où les choses ont commencé de devenir sérieuses, j'ai déjà raconté, mais voilà, pour les nouveaux, les choses ont... J'ai dû me placer devant Dieu, écouter sa voix. Et à un moment donné, j'étais couché par terre, les bras en croix, c'était la mort. J'avais envie de mourir à ce que j'étais à Bienne pour pouvoir entrer dans ce que Dieu avait préparé pour Fribourg. Parce qu'à ce moment-là, étonnamment, mes parents s'étaient divorcés et ma mère... Je pensais qu'elle se sentait un peu seule. Et tout d'un coup, j'avais un immense fardeau pour ma mère. Il fallait que je m'occupe de ma mère. Sans moi, ma mère était perdue. À ce moment-là, j'ai dû mourir à cette idée. Je dis non, Seigneur, moi je te laisse ma mère. Je veux entrer dans ton histoire à toi. Je crois que tu as d'autres moyens pour s'occuper d'elle. Bien sûr que j'irai la visiter depuis Fribourg, ce n'est pas un problème. Mais ça a été un moment vraiment difficile. Où je sentais que Dieu voulait m'amener plus loin dans cette histoire sainte, qu'il avait une autre étape pour moi encore. Donc, Abraham va s'arrêter à Charan, lui, tout son clan, ses bagages, etc. Et Charan signifie asséché. C'est étonnant, asséché ou aride. C'est comme si la foi, la confiance d'Abraham, qui avait éclos à Ur, passait maintenant par un temps de sécheresse. Est-ce que vous avez connu des temps de sécheresse dans votre vie de foi? Il n'y a pas de honte à avoir à cela. Aucunement. Au contraire, bien sûr, ça dépend de ce qu'on va en faire. Moi, j'ai connu des chrétiens qui sont entrés dans un temps de sécheresse, ils n'en sont pas sortis. Ça peut être un piège aussi. Mais je pense que Dieu permet cet arrêt à Charan avec... Tout son monde, toute sa réalité, il a eu le temps de réfléchir tout au long de ce périple et il réalise qu'il ne peut pas continuer ainsi. Il y a des choses maintenant qui doivent être enlevées de sa vie. Des choses qui le retiennent, qui l'empêchent d'être libre, de vivre plus pleinement le dessein de Dieu. Et ça, c'est un temps décisif. C'est aussi un temps béni de Dieu. Parce qu'il nous laisse le temps de nous situer par rapport à cet appel. Il nous laisse le temps de bien réfléchir à la chose. Il nous laisse le temps de la réponse consciente, réfléchie. Même si on ne peut pas aller jusqu'à l'extrémité, mais se dire, ouais, maintenant, c'est un immense défi d'aller à Fribourg pour moi. Mais je te fais confiance. Si on n'avait pas eu cette confiance, jamais on serait parti. On serait peut-être encore aujourd'hui dans la librairie en train de donner des thés et des cafés à ceux qui viennent. Donc, c'est un temps en même temps difficile pour Abraham, mais un temps béni. S'il veut entrer dans l'héritage, dans la bénédiction, il doit abandonner certaines choses. Rappelez du message précédent avec le papillon, cette chenille qui, à un moment donné, se transforme. Il y a cette chrysalide, mais tout ce qui est du corps de la chenille devient bouillie, et de cette bouillie, Dieu va produire un papillon. Ça dépasse l'entendement des plus grands scientifiques. Personne ne peut expliquer la transformation. Mais c'est une réalité, elle est là devant nos yeux. Donc, il y a des choses qui doivent mourir en nous, et de cette boue, Paul le disait, je regarde ces choses comme de la boue, pour ne pas dire autre chose, ben de ça, Dieu va pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau. C'est quand des choses meurent en nous que Dieu peut donner vie à quelque chose de nouveau. Alors, j'aimerais m'arrêter un deuxième temps maintenant. Qu'ai-je fait de l'appel de Dieu sur ma vie? Où est-ce qu'il en est, cet appel? Où est-ce que je me situe par rapport à l'appel? Si j'appelle maintenant Yvette, vous voyez, elle a réagi. C'est déjà pas mal, c'est qu'elle a envie. Alain, André, Pierre, Jacques, etc. L'appel a retenti, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je suis sorti d'Ur? Est-ce que je suis sorti de ma vie ancienne? Qu'est-ce qu'il y a dans mes bagages qui peut-être aujourd'hui doit être abandonné, laissé? Y a-t-il des choses qui doivent mourir en moi? Je vous invite à faire un petit moment de silence là. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour l'appel qui a retenti dans nos vies. Mais peut-être que nous n'avons pas eu la curiosité d'aller chercher le contenu de l'appel. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet appel? Ou bien nous nous sommes peut-être limités à l'aspect du salut. Oui, je suis sauvé par grâce. Un jour, je serai avec toi pour toujours, dans l'éternité. Mais peut-être que tu as des choses en réserve et je ne me suis pas intéressé, je ne me suis pas occupé de ces choses. Je ne suis pas venu les chercher en toi. Et je veux te demander pardon. Pardon ce matin parce que je me suis contenté du minimum, peut-être. Alors, ce matin, j'aimerais, Seigneur, te demander de rendre cet appel vivant, de m'aider à voir ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi tu m'as appelé? En vue de quoi? Quelle est ton intention? Quel est ton dessein pour ma vie? Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui est fidèle en peu de choses. Seigneur, révèle-moi ce peu de choses. Donne-moi la force de le vivre. Donne-moi la force d'aller à la rencontre de ce peu de choses pour que tu puisses m'en donner encore de plus grandes. À la gloire de ton nom. Amen. Alors on continue et on termine, il y a un troisième temps dans ce texte. Donc ce temps passé à Charan va s'avérer dans le fond positif. Pourquoi? Parce que le texte nous le dit, parce que le récit nous le révèle. Abraham a eu le temps de réfléchir, de faire un choix personnel qui sera décisif. Et regardez comment les choses deviennent, je ne vais pas dire faciles ou simples, mais quand même. Genèse 12:5, à partir de ce moment-là, il est dit... Ils partirent pour aller au pays de Canaan, ce qui n'était pas évident non plus à l'époque. Hein, on prenait pas EasyJet, hop, sans derrière sur un siège, 30 minutes après on y est. Hein, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils partent et ils arrivent. C'est comme si le chemin était aplani devant les pas d'Abraham et de son clan. C'est extraordinaire de voir que, à partir du moment où mon choix est fait, l'histoire sainte de Dieu peut continuer de s'accomplir. Ils partirent et ils arrivèrent. Et on voit que la brièveté de ce récit montre combien les choses peuvent se décanter à partir du moment où je fais un pas de foi, c'est-à-dire où je mets ma confiance. J'y comprends encore rien. Fribourg, pour moi, mais c'est une cathédrale, c'est une montagne, c'est un Eiger. Mais bon, je te fais confiance, Seigneur. Allez, on y va, on verra bien. Hein? Ben, y a une église de 200 personnes aujourd'hui. Qui l'aurait cru à ce moment-là? Pas moi. Enfin... dans mes rêves les plus fous. Proverbe 3:6, il est dit, confie-toi en l'Éternel, passe ce temps avec lui, de tout ton cœur. C'est un cœur à cœur, c'est pas juste, oh bonjour Seigneur, c'est le matin, dans 5 minutes je dois partir. Non, confie-toi en lui, de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ben, le sentier d'Abraham, il est aplani, on ne peut pas dire le contraire là. Ils partent et ils arrivent. Ésaïe 55:12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Conduits en paix. Quand on a reçu la paix de Dieu, que c'était juste de partir de Bienne à Fribourg, tout devenait plus simple. Avant, tout était compliqué. Parce que je m'appuyais sur ma propre sagesse. Donc Abraham sort enfin de son histoire pour entrer dans l'étape suivante de celle de Dieu. Et là, regardez ces quelques passages. Ils sont éloquents. Qu'est-ce qui va se produire dans la vie d'Abraham? Ils partirent, ils arrivèrent. Abraham parcourut le pays jusqu'à Sichem. Hop, ça continue, hein? Il n'est pas arrivé là, s'est arrêté, puis est devenu une statue, non? Il est dit qu'il parcourt le pays jusqu'à Sichem. Sichem signifie épaule. Les épaules, c'est un symbole de la force. Hein? Autant parfois nos épaules peuvent être lourdes à cause d'un lourd fardeau, autant nos épaules peuvent être légères quand le joug de Dieu nous est donné. Un joug doux et léger. Donc il arrive à Sichem, mais c'est un renouvellement de force. Il sent lui-même qu'il est là où Dieu le veut. Et ça, c'est... Oh, ça fait du bien. Hein? Et Abraham, parce qu'il est là où Dieu le voulait, sans ce fardeau quitter ses épaules. Hein? L'Éternel apparut à Abraham. Il lui fait des promesses. Vous imaginez, c'est le dialogue qui s'instaure. C'est pas juste quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. C'est un partage. Il lui fait des promesses. Et là, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. C'est un temps de communion, un temps de relation, un temps de proximité, un temps d'intimité qui s'inscrit dans la vie d'Abraham. Tout ça parce qu'à Charan, il a fait le choix de suivre Dieu. Et il apprécie. Il apprend à chérir ces moments d'intimité. Et l'adoration, la communion va devenir pour Abraham quelque chose du quotidien. C'est quelque chose qu'il apprécie maintenant. Il sait à qui il a affaire. Il entre en lien, en contact avec son Dieu. Et il ne s'arrête plus. C'est ça qui est extraordinaire dans ces quelques passages. Il ne s'arrête plus. Verset 8. Il se transporte vers la montagne près de Bethel. Ah, il est chez lui. Il est à la maison, là. Et pourtant, le texte nous dit, il y avait des Cananéens. Avec les Cananéens, ils vont avoir des problèmes hein, dans la suite. Mais lui, il est préoccupé par Dieu. Il sait qu'il est dans la maison de Dieu, à Bethel, la maison de Dieu. Donc, il n'est pas préoccupé par les Cananéens, par tous les soucis qu'il pourra avoir. Il est là où Dieu le veut. Et il est préoccupé par la présence de Dieu. Donc, il a fait le bon choix. Et c'est magnifique de voir ça. Se dire, oui, c'est possible pour moi. S'il y a un appel sur ta vie, il y a un contenu dans cet appel, et il y a un Dieu qui est capable de t'amener à vivre le contenu. Toi, ou toi, oui, toi aussi. Toi aussi. Et jamais Abraham ne regrettera, n'est-ce pas? Jamais Abraham ne regretta. La suite du récit nous révèle qu'il est devenu l'ami de Dieu et le père de tous les croyants. Ça, c'est un homme à imiter. Alors, on verra la suite, hein, c'est pas toujours rose hein, dans la vie d'Abraham. Mais voilà, c'est des choses que nous pouvons reproduire dans notre vie. C'est des choses que nous pouvons vivre dans notre vie aussi. Et vous l'avez compris, si nous imitons Abraham, nous sortirons, nous partirons et nous entrerons dans notre Canaan. Et il est évident que notre Canaan à nous, c'est Jésus. Nous l'avons chanté encore ce matin. Nous avons tout pleinement en lui. Et celui qui dit ça, et je termine, celui qui dit ça, nous avons tout pleinement en lui, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. Il a dû sortir de son Ur. Il a dû passer par Charan. Hein? N'oublions pas que Saul de Tarse a dû quitter aussi ses traditions religieuses, sa manière de voir les choses, de servir même son Dieu. C'était presque de l'idolâtrie ce qu'il était en train de faire là. Hein? Ben, il va aussi connaître Charan. Pendant 3 ans de temps, il sera dans le désert d'Arabie. Pourquoi? Ben pour mûrir l'appel de Dieu qui était venu sur sa vie, pour réfléchir à ce qui s'était passé, pour se préparer en vue de ce que Dieu avait. Et vous pensez que Paul, à ce moment-là, savait tout ce qu'il allait vivre pendant toutes ces années? Certainement pas. Mais il a fait confiance. Et à un moment donné, il a dit, mais j'ai tout pleinement en Christ. Donc voilà, hein, tout est possible maintenant. Donc en Christ, le Père nous a préparé un lieu de rencontre, un lieu de sécurité, un lieu de communion, un lieu d'adoration, un lieu où nous nous sentons chez nous à la maison, même s'il y a beaucoup de Cananéens autour de nous, dans le monde spirituel autour de nous, peu importe. À l'image d'Abraham, marchons avec Dieu. À l'image d'Abraham, répondons à son appel. À l'image d'Abraham, allons jusque là où Dieu veut nous conduire. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ces vieilles histoires qui sont tellement, 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 tellement actuelles. Nous faisons un saut de 4000 ans, nous voyons ce Dieu qui intervient dans la vie d'un homme et nous voyons les conséquences insoupçonnées. Merci notre Dieu, merci d'être ce Dieu si présent dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance pour nous afin que nous le pratiquions. Seigneur, nous te prions maintenant pour que tu continues de parler à nos cœurs et que tu nous aides à être des imitateurs d'Abraham ou de Christ ou de ceux qui pour nous seront des modèles à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.
Et maintenant, le temps de la Sainte Cène, bah, ça va être le moment de dire, bah oui, je laisse derrière. Oui, je pars, j'avance. Je vais dans la direction que tu me donnes. Je vais dans la direction de cet appel que tu me dis aujourd'hui, que tu me rappelles, et je laisse derrière ce que je dois laisser. Je fais un pas en avant, je vais plus loin avec toi. Alors qu'on puisse vraiment prendre cette Sainte Cène tous dans cette attitude, dans cet engagement. Seigneur, on te remercie pour ce pain qui représente ton corps, mais qui va représenter aussi ce que nous allons laisser. Dans ce pain, symboliquement, on va mettre ce que nous laissons derrière nous. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu vas guider chacun. Tu vas guider chacun dans ce lâcher. Je te remercie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de montrer à chacun plus précisément encore ce qu'il a à lâcher de sa vie, de son ancienne vie, pour rentrer encore plus avec toi dans la vie nouvelle. Seigneur, je te remercie pour ce jus de raisin qui représente ton sang et qui représente aussi ce Seigneur, par ton sang, tu nous purifies, tu nous laves et tu nous fais entrer en nouveauté de vie. Et je te remercie, Seigneur, pour ce sang aussi, ce jus de raisin qui va symboliser ce nouveau pas qu'on fait avec toi, cet engagement qu'on fait avec toi, où on va venir te dire, je vais aller encore plus loin dans la direction que tu me donnes, que tu me précises là ce matin. Amen.